Au bord de l'Eure, dans un moulin, elle tourne son premier film français avec la timidité et la passion d'une débutante. Pourtant, à 23 ans, elle a déjà 20 films et 9 ans de carrière derrière elle. Mais Romy Schneider a voulu oublier toute cette carrière pour en recommencer une autre. C'était une Gretchen munichoise, ronde, blonde et ingénue. Elle est devenue une Parisienne mince, brune et passionnée. Comment ? Pourquoi ?
Romy Schneider, je pense que ce n'est un secret pour personne. Vous avez beaucoup changé. Ça ne doit pas être un secret pour vous non plus. Est-ce que vous aimez mieux comme ça ?
Oui, j'aime mieux.
En mai 62, François Chalais interviewait celle qui, 4 ans auparavant, avait monté les marches de l'ancien palais des festivals pour le film Sissi Impératrice. Juste avant, on entendait l'intro de sa première rencontre avec France Roche, 6 mois plus tôt, toujours pour la télé nationale. Elle est née en 1938, sa mort fut annoncée il y a 40 ans, le 29 mai 1982. Bonjour et bienvenue dans cette 26e visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Cette semaine, visite à l'une des plus belles et des plus grandes actrices françaises, car elle demanda la naturalisation, Romy Schneider. Retour au chalet à Cannes, elle est en tailleur blanc Chanel, col Claudine, elle a 23 ans.
Pourquoi est-ce que vous avez changé ? Parce que vous n'aimiez pas ce que vous étiez avant ?
Il n'y a rien qui me fait plus de peur que l'ennui. Et puis, je ne l'avais pas connu ça avant. Il y a 2 ans et demi que je sentis ça la première fois. Je ne l'avais pas connu avant parce que j'étais très bien. J'étais très bien comme Sissi, comme princesse. Non seulement dans le film, mais sur l'écran, on m'a fait ça même dans la vie. Le public, en Allemagne, en Autriche, c'était très bien. Personne, qui n'aimera pas ça.
C'était une très jolie pâtisserie. D'ailleurs, la pâtisserie viennoise est une chose extrêmement agréable.
Très bonne, la meilleure.
Il y en a pas raison de s'en priver. Mais ce qu'on ne sait pas très bien en France, c'est que vous étiez tellement identifié au personnage de Sissi qu'on devait vous en vouloir de changer. Sissi, qu'est-ce que c'était ? C'était Sainte-Thérèse de Lisieux qui faisait du cinéma, quoi. C'était quelque chose dans ce genre-là. Et il ne fallait surtout pas que la sainte montre qu'elle pouvait avoir des appétits terrestres. Vous étiez vraiment très prisonnière de cela.
Oui.
Vous saviez à ce moment-là que vous alliez avoir un combat très
c'était
dur.
C'était comme une... Vous savez, je me sentais comme dans une veste qui est devenue un peu trop petite, ça craquait.
C'était presque de l'ingratitude de vouloir changer.
Oui.
Vous tourniez le dos à un public quand même qui vous avait fait ce que vous étiez, que vous l'aimiez ou pas.
Oui, et ça fait peur aussi.
Oui. Et vous ne vous disiez pas, je vais me mettre tout le monde à dos.
Si, bien sûr, je le savais.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je continue tranquillement à faire ce que j'ai toujours
bien
fait?
Bien sûr, je me posais des questions jour et nuit. J'avais bien des gens comme ma famille, etc., et des amis de là-bas, près de moi, qui me disaient, tu es folle. On ne peut pas faire ça, tu refuses l'argent, tu tournes, comme vous dites, le dos à un public énorme, qui est très gentil, qui
oui.
t'aime comme ça. Pourquoi changer? Et puis, qui sait si tu peux faire autre chose? Il y a 2 ans et demi... Après avoir tourné, après avoir connu Alain, après avoir tourné 3 films dans le même genre en France, c'était fini.
Est-ce que vous vous rappelez exactement les circonstances dans lesquelles vous vous êtes dites
oui, je me rappelle très bien. C'était au moment où Alain tournait à Milan Rocco.
Alain, c'est Delon, Rocco et ses frères, de Visconti, avec une Annie Girardot bouleversante.
Pendant cette longue patience, que pensiez-vous ?
Mais je pensais surtout qu'il faut que je trouve quelqu'un qui est ni mon mari, ni ma famille, qui est dehors de tout ça et qui me dit ce qu'il faut faire, qui me sort de cette situation, de ce je ne sais pas quoi faire, et qui me donne confiance en moi-même que j'avais perdu. Et je l'ai trouvé, c'est Visconti. Non.
Vous avez dit, je m'arrête de tourner tant qu'on ne me propose pas quelque chose d'intéressant.
Ça,
ou quoi?
Oui, oui.
Aujourd'hui, Romy Schneider, à cause de votre courage, à cause de votre intelligence aussi, quelquefois ça coïncide, il n'y a pas un grand metteur en scène qui n'ait envie de travailler avec vous. Luchino Visconti a fait appel à vous, et pas seulement à cause de vos relations, parce qu'il savait, ces gens ne gaspillent pas leur talent avec les autres. Ils peuvent être polis, ils peuvent être bien élevés, mais jamais dans le métier.
Non.
Pas, ils ne font pas les choses pour rien.
Le film avec Visconti, c'était un sketch qui...
De Bocas 70.
Oui, qui s'appelle Le Travail.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une jeune femme, très moderne, c'est une aristocrate viennoise. Ah, je ne peux pas raconter les histoires.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme rôle?
Ce que je fais maintenant, ici.
Dans ce film qui s'appelle Le Combat.
Le Combat.
Le Combat dans l'île d'Alain Cavalier.
C'est une jeune femme moderne, très moderne. C'est une amoureuse, soumise, révoltée.
C'est une femme prise entre deux hommes.
Entre deux hommes.
Un homme autoritaire et un homme libéral.
C'est ça. Son mari et son ami. Et puis, je ne vais pas vous raconter l'histoire.
Non, d'ailleurs je la connais.
Vous aurez remarqué l'emploi du mot moderne par deux fois. Il est là le changement, fini la crinoline et les valses viennoises.
Tout à l'heure, vous allez quitter Cannes, vous allez repartir pour Paris. Il y a un monsieur qui vous attend, c'est Paul Orson Welles, qui lui aussi ne travaille pas avec la première venue. Vous faites le procès avec lui.
Oui.
Bon, ça doit plutôt vous faire plaisir.
Beaucoup.
En avril 78, Drucker revient avec elle sur une conversation qu'ils eurent à Berlin.
Sur la fragilité du vedettariat, sur la fragilité des carrières. Vous vous souvenez, vous m'aviez dit, sans la piscine, sans Delon et sans le film de De Rey, ça serait peut-être passé différemment, car lorsque j'ai tourné ce film, j'étais un petit peu au creux de la vague.
C'est vrai, ce film, je le dois à Alain. Il peut choisir ses partenaires. Mmh. Il a demandé que je fasse ce rôle et je le fais, et ça m'a fait, redémarrer en France.
En complet neuf. Mes souliers neufs, et cette fois-ci, ça marche. Je suis fou de joie, car j'ai le plaisir d'accueillir maintenant une des plus grandes et plus belles vedettes du cinéma mondial actuel, Romy Schneider.
Au tournant des années 70, Sacha Distel anime son Sacha Show. Et entre Aldo Mazzone et Régine, qui trouve-t-on ?
Romy. Oh, je rêve. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui. Si vous avez vu Romy dans son avant-dernier film, La Piscine, vous l'avez trouvée sûrement merveilleuse. Mais quand vous allez voir son nouveau film, Les Choses de la Vie, vous la trouverez encore plus extraordinaire. Et je dois dire qu'il y a un thème musical formidable dans le film.
Thème signé de l'immense Philippe Sard qui avoua bien plus tard avoir été l'amant de Romy durant une dizaine d'années.
Et un texte a été écrit sur ce thème musical par Jean-Loup Dabadi. Et Romy, tu chantes cette chanson qui est un duo en fait.
Oui.
Alors un duo, ça demande un partenaire et je pensais que naturellement, ce partenaire, ça pouvait être moi.
Oui, ce serait très bien,
oui,
sympa.
Mais Sacha, je m'excuse, le partenaire, oui, c'est moi.
Ah bon, dans le film?
Dans le film et dans la chanson.
Ah, et dans la chanson,
oui,
aussi.
Bon, eh bien, comme Michel Piccoli est aussi un de mes amis, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est de te serrer la main.
Oui, mais tu pourrais me dire aussi que tu m'as trouvé bien dans le film, non?
Ah, je te dis que non seulement je t'ai trouvé bien, mais je t'ai trouvé absolument bouleversant, formidable, enfin, comme Michel Piccoli toujours.
Et cette chanson n'est pas dans le film, mais pourrait être la suite de l'histoire de ce film si je n'étais pas mort.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme
le hasard qui fait que je me suis trouvé au studio de Billancourt. J'ai vu deux femmes qui sortaient du restaurant, et une qui avait une intensité particulière. Je lui ai demandé qui cet homme, elle m'a dit, mais c'est Romy Schneider. Et ça m'avait devait frapper parce que je ne l'ai pas reconnu. Elle était coiffée avec des lunettes, je ne l'ai pas reconnu.
Claude Sautet dans les années 80.
Et comme à l'époque, effectivement, je cherchais le rôle de la deuxième femme dans Les Choses de la Vie, j'ai eu l'impression immédiate de me dire, c'est pas la peine de chercher, c'est sûrement cette femme.
En parlant de son scénario, comment il veut le faire, comment c'est le personnage de Michel Piccoli, le mien, je sentis qu'il observait.
Je vais vous dire la vérité, César. J'aime Rosalie.
C'est normal, ça. Tout le monde l'aime.
César, c'est Montand, Rosalie, c'est Romy, celui qui avoue, c'est David, joué par le magnifique Sammy Frey. Décidément, trop rare à l'écran. Qui dit sautait, dit bar et resto.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. Merci. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
Pas avoir un peu de beurre, là, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur.
Merci. Bon, de toute façon, je ne saurai jamais la vérité, alors.
Mais César, la vérité, tu la sais, tu la vois. On est ensemble. Si je voulais être avec lui, j'y serais, je suis libre.
Tu ne vas pas me dire que là, tu ne penses pas à lui.
Ce serait difficile, tu m'en parles sans arrêt. Puis oui, je pense à lui. Je ne sais pas s'il est beau, s'il est... Je m'en fous. Toi, je ne sais pas pourquoi je t'aime,
tu... Oui, mais tu m'aimes.
Oui.
On dirait que ça ne t'arrange pas.
Non.
Tiens, tu le reconnais, c'est la maison.
C'est là où on a passé tous les étés avec Karl, quand on était comme elle.
C'est où?
Amandée. Je l'ai acheté. Oui, on pourra mettre toute la famille et puis tous les amis. C'est une grande maison, il y a, je sais pas, une dizaine de pièces. Mais c'est assez bizarre parce que de l'extérieur, elle fait petite et puis tu rentres à l'intérieur et alors c'est presque un petit Versailles.
Si vous allez un jour à Noirmoutier, la maison se trouve rue des Dunes. A priori, les volets sont toujours bleu clair.
Trincourt et moi, je marche sur les longues plages. C'est une maison qu'on avait oubliée. Carla dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre. Le vent se levait lundi. Et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête. Mais je le sais. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es.
Vous avez fait 5 films avec Claude Sautet, avec qui vous n'êtes pas marié.
France Roche, JT de la 2, novembre 78.
Ce qui est très rare, généralement, les metteurs en scène qui font tellement tourner une comédienne sont leurs maris. Comment avez-vous fait pour ne pas vous fâcher plusieurs fois? En 5 films, on en a beaucoup l'occasion.
Et Claude et moi, c'est une amitié qui va bien plus loin qu'une amitié ou une complicité de metteur en scène comédienne. Claude, je le connais depuis longtemps, depuis les choses de la vie. Et nous parlons de la vie, nous nous voyons hors tournage. Je l'écoute et j'aime l'écouter et je pense vice-versa. Et c'est quelque chose de plus riche que seulement travailler ensemble, seulement faire...
C'est lui qui vous cherche des rôles ou c'est vous qui les lui demandez?
Non, c'est lui qui les a cherchés et trouvés, c'est lui qui m'a proposé des rôles. Et le dernier, l'histoire simple, après ma dose, j'ai demandé à Claude, que je lui ai dit que j'en avais un peu ras-le-bol, un peu marre de toutes ces histoires d'hommes, et qu'il me fasse une histoire de femme. Alors Jean-Loup Dabadie et Claude, ils me l'ont fait, cette histoire de femme, et je l'ai fait.
Dans l'extrait que nous avons diffusé là, il y a une phrase qui m'a frappé. Vous dites à un moment, seul, je suis libre. Alors est-ce la phrase d'un scénariste ou est-ce que vous vous reconnaissez tout entière dans cette phrase?
Mais est-ce qu'on est libre? On n'est jamais tellement libre, complètement. Je ne crois pas.
C'est la phrase d'un scénariste alors?
Non, c'est la mienne. Maintenant.
Maintenant?
Oui.
62.
C'est bien un moment où ça peut s'arrêter, surtout pour une femme. Un jour, on est plus jeune, on est plus jolie. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un coin où on peut aller, ou un enfant. J'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder.
Février 75 sort le film de Zulawski. Elle s'y met en danger et interroge son métier.
Dans L'importance est d'aimer, Romy Schneider, la comédienne la plus demandée et la plus payée du cinéma français, joue le rôle d'une actrice ratée.
Il y a trois quarts de rôle, de ce personnage, qui se sépare complètement de moi-même, et un quart, ça rapproche de moi-même.
Bonnet, tu comprends?
Non, j'ai compris.
Je me sens bien, je suis fatiguée, et personne n'en voulait faire plus que moi. Personne n'en voulait aller plus.
On descend un peu dans ces enfers. Toutes les fois, non?
Ah, je...
Ne faites pas trop, s'il vous plaît.
Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour vous, c'est tout, alors ne faites pas trop tôt. C'est celui-là.
Le métier de comédien et surtout de comédienne m'a toujours paru presque un vice, parce que les comédiens, même quand ils sont au fond de l'échec, n'envisage pratiquement jamais de changer de métier. Pour être plus vrai, elle a accepté d'être enlaidie, trop ou pas maquillée.
Mais vous ne voulez pas vous maquiller, vous coiffer, vous préparer?
Non. Pour
Pourquoi? J'ai la tête que j'ai, 30 ans. Ça vous les plaît?
Et 8 mois plus tôt, sur le tournage, avec le gars de Midi Première, le show de la giscardienne Janelle Gilbert.
Est-ce que vous avez conscience d'être très belle?
Je sais pas, dis-moi, la gueule que j'ai, oh, écoutez, vous exagérez.
Ah, il y a des films où vous êtes merveilleusement bien photographiée.
Oui, ah bon, bah, c'est le chef opérateur, monsieur. C'est pas moi.
Donc vous n'arrivez pas à vous mettre devant une glace et puis de vous dire...
Bah, non, je ne fais plus bien. Ça m'emmerde. Je ne veux plus me regarder.
Vous n'avez pas un peu l'impression d'être de mauvaise foi, là? Non.
De mauvaise foi?
Non.
Comment?
Ne pas reconnaître que vous êtes une femme très belle?
Mais non, je suis photogénique. Mon père a toujours dit, je suis photogénique, c'est tout. T'as de la chance, tu es photogénique, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse et très fière. Et j'ai envie de vous dire que je pense spécialement à un homme ce soir qui m'a appris mon métier, qui était mon maître et mon très grand ami. Il sera content pour moi. C'est Luchino Visconti.
En 1976, elle obtient le premier César de la meilleure actrice de l'histoire des Césars pour ce film. Elle remercie Visconti pour qui elle a tourné en 1972, Ludwig, sur Louis II de Bavière.
Si ton ami Wagner est aussi génial que tu l'es dit, il n'a aucun besoin de toi. Cette amitié si pathétique ne peut te donner que l'illusion d'avoir créé quelque chose toi-même. Tout comme je te donne l'illusion de l'amour.
79.
Oui, je tourne avec Costa Gavras et Yves Montand, un autre film, très là, tout de suite, le 4.
Le rôle d'une femme aussi, libre.
C'est d'après un livre de Romain Garis, ça s'appelle Clair de femme.
À vous voir. C'est très très un homme désespéré.
Allez, circulez. Circulez.
Vous n'aviez pas la force de quitter Paris. Mais c'est une trahison quand même, vous lui aviez promis.
Elle voulait vous épargner. Ou peut-être elle avait peur que si vous restiez, elle n'aurait pas le courage. À quelle heure?
4 heures. Il ne reste plus pierre sur pierre. Et ça veut dire qu'il faut bâtir.
Ça veut dire qu'il n'y aura jamais personne d'autre. Ce sera toujours elle.
Vous avez déjà de l'amitié pour elle. Elle avait raison de mettre en toi tout son espoir.
En 80, un film encore plus près de sa vie, son réalisateur en parle à Patrick Simonin sur TV5 Monde en 2012. Bertrand Tavernier pour La mort en direct.
Ce que dit le film sur les médias, la dictature du voyeurisme, surtout sur cet audiovisuel où, comme le dit à un moment Romy à Harry Dean Stanton, haut acteur formidable, dit à la télévision, tout est important et rien ne compte. Et on est à l'heure actuelle confronté avec des images où tout est important et rien ne compte.
Il y a les paparazzi, il y a le voyeurisme, vous en parliez, Bertrand Tavernier. Il y a tout ce qui était aussi son propre personnage dans la vie.
Oui, elle tenait tellement à ce qu'on respecte sa liberté. Je pense que ce film, elle y a vu une manière de, aussi de parler d'elle, de parler de son combat pour la liberté, de son combat qu'elle menait constamment contre ses fantômes.
La télévision qui la filme sans qu'elle le sache dit, elle est magnifique.
Oui, oui.
C'est la télé-réalité.
Oui, absolument.
Elle est filmée à son insu par cet homme caméra avec une caméra greffée dans le cerveau.
Oui, maintenant, on n'aurait plus besoin avec la manière dont les caméras se sont miniaturisées. On peut les mettre n'importe où. Elle veut fuir les images, elle veut fuir un destin qui est tracé d'avance par les médias, oui. Et ce combat, moi, je m'identifie complètement avec elle et je pense qu'il a perdu, il n'a perdu aucunement son actualité, bien au contraire. Ouais. Il y a le cynisme, l'audimat, en effet, mais il y a aussi l'idéalisme d'un personnage qui se rend compte que ce qu'il fait est terrible et qui, tout d'un coup, va lui-même mettre fin au processus en s'aveuglant.
Encore un risque pour elle et sa vérité et son fils David dans une scène du film.
Romy avait voulu qu'il soit dans cette petite scène et je l'avais filmé. Et pendant très longtemps, j'ai eu du mal à revoir le film parce que je pensais à ce qui lui était arrivé, à sa mort. Et je pensais à tous ces jours merveilleux qu'il a passé avec nous, avec l'équipe, qu'il adorait. On l'aimait tellement, David.
JT de TF1, le soir de sa mort.
De César, en 1976 et en 1979. Et pourtant,
Le malheur la frappe au sommet de la gloire. C'est d'abord son premier mari qui se suicide en 1979, puis une opération sur un rein en 1981, le divorce avec ce second mari, et enfin la mort atroce de son fils David. Romy reprend le dessus, elle tourne la passante du sans-souci, c'est maintenant la femme de 40 ans.
Avril 82, JT de la 2.
1933, une femme qui perd amour et fortune. 1982, une femme frappée en plein bonheur. Ces deux femmes sont jouées par Romy Schneider dans un film qu'elle a demandé à Jacques Rouffio de réaliser, La passante de sans-souci.
C'est le livre de Kessel que j'ai lu il y a très très longtemps. Et c'est une de ces histoires qu'on n'oublie pas, mais qu'on met dans un tiroir, on fait un autre film. Mais ça m'a jamais vraiment quittée.
Qu'est-ce qui a fait sortir le livre des tiroirs ?
Je peux pas très bien expliquer. C'est des choses qui arrivent comme une avalanche, comme un cri. Ce film-là est pour moi une manière d'avancer dans la vie.
Avancer, c'est avoir fait un film engagé politiquement sur le nazisme hier et le racisme d'aujourd'hui.
Ce qui est issu des prémices du nazisme en 1933 et qui s'est poursuivi jusqu'à 1945 avec la guerre que l'on sait.
Jacques Rouffio.
Il y a toujours des ramifications de racisme de toute façon. Et il se trouve que selon les époques, peut-être un petit peu plus en ce moment qu'il y a 10 ans, par exemple, je ne sais pas. Mais ça existe. Et même si notre histoire a été écrite avant la rue Copernic, avant des choses comme ça, curieusement l'histoire, hélas, nous rattrape toujours. Donc raison de plus pour faire des films comme ça, je crois.
5 jours avant, le 10 avril 82, au micro, Drucker.
Alors, vous avez dit à Daniel Lehmann dans l'Express qui sort demain que ce film est plus qu'un film. D'ailleurs, Daniel Lehmann écrit « Voulu, vécu, habité par Romy Schneider ». Je suppose que le fait que ce film ait été tourné à Berlin n'est peut-être pas étranger à cette remarque.
Non. Berlin représente une honte pour tout le monde, une honte qu'on traîne depuis 30 ans. Imaginez Paris ou toute autre ville coupée en deux. Et puis Berlin, c'est aussi une ville qui est plein de souvenirs personnels pour moi.
Souvenez-vous, les nazis sont des monstres, des assassins. Vous avez couché avec un assassin.
Elle n'a pas peur d'être blâmée, elle qui, malgré sa carrière éclatante, a peur de tout.
Le trac, il est toujours là, la peur qu'on se plante, la peur qu'on fait mal son travail, la peur qu'on oublie un mot.
La première star européenne débute à chaque film. Mais à la fin du 60e, en plein éclat et en pleine gloire, elle pense déjà parfois au départ.
Romy Schneider, vous avez tourné ce film à une époque difficile de votre existence.
Vous me permettez de ne pas.
Je vous rassure tout de suite, je n'en parlerai pas. Mais je voudrais tout de même savoir si vous avez songé un instant à abandonner votre métier.
Oui, j'ai pensé à ça, mais je ne le ferai pas. Je l'aime mon métier, il m'aide.
Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous voulez tourner un petit peu moins pour essayer de réussir davantage votre vie, qui est une chose difficilement compatible parfois avec le métier d'actrice, surtout à ce niveau.
Je veux beaucoup plus me préoccuper de ma vie personnelle, de ma vie privée, c'est vrai. Tourne moins de films qu'avant, mais pour réussir ma vie privée, je ne peux pas être seule, je ne le suis pas d'ailleurs, mais surtout qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir, qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort, qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une, comme on dit, où est la morale, où est le tact?
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. On ne connaîtra sans doute jamais les circonstances exactes de la mort de Romy Schneider. Mais après tout, quelle importance. Son talent, son charme et sa gentillesse valent bien, me semble-t-il, aujourd'hui, au moment où elle disparaît, un peu de discrétion. Évitons les spéculations inutiles, voire malsaines, et donnons simplement les faits tels que médecins et magistrats ont pu les constater. Christian de Dadelsen.
Romy Schneider avait passé la nuit ici, au 11 rue Barbet de Jouy, derrière le musée Rodin à Paris. Hier soir, elle était allée dîner avec son secrétaire, qui est aussi son compagnon de vie commune, depuis plus de 3 ans. Un dîner copieux et bien arrosé, dit-on. Ils étaient rentrés tard et ce matin, en se réveillant de bonne heure, le compagnon de Romy l'a trouvé inanimé. Il a prévenu les pompiers, mais le médecin de la brigade devait constater le décès. Le substitut du procureur de la République s'est alors rendu sur les lieux vers 11h avec un médecin légiste qui a constaté la mort naturelle. Le permis d'inhumer a été signé. Il n'y aura donc pas d'autopsie. Télégrammes, coups de téléphone, déclarations à la presse, les témoignages de sympathie sont nombreux. Michel Piccoli et Jean-Claude Brialis se sont même rendus sur place dans l'après-midi.
Le plus bel hommage rendu aujourd'hui à Romy Schneider, c'est certainement le silence observé par tous ceux qui ont travaillé avec elle et qui l'ont aimée. Acteurs, réalisateurs et autres gens de cinéma, de Michel Piccoli à Yves Montand et Alain Delon, nous n'avons trouvé aujourd'hui personne qui souhaite exprimer sa peine devant une caméra. Cette pudeur, chacun, je pense, la comprendra et la respectera.
Décédé dans la nuit du 28 au 29 mai 82, son dernier témoignage public aura été glaçant de colère froide. On la sentait bien déterminée à dire ce qu'elle avait sur le cœur ce soir-là. Pourtant, plusieurs de ses derniers films allaient tous dans le même sens, celui de l'invocation à sa liberté, sa tranquillité, sa normalité. C'est aussi pour ça, sa simplicité de femme, moderne et libre, qu'elle reste dans le cœur de tant de gens dans le monde. Ainsi se clôt la 26e visite de la saison 5 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et RadioAlpa.com. Mais nous ne quittons pas sans musique et celle composée par Jean Musy pour Claire de Femme, le très beau film de Costa Gavras. Bonne semaine à toutes et tous et n'oubliez pas de placer votre liberté au-dessus de votre métier.
Tourner avec Alain Delon, quel genre de sujet choisiriez-vous ?
Une histoire d'amour.